CISO 101.7, La Tribune. Une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Chers amis, bonjour. Bienvenue à une autre édition de La Tribune. À l'émission aujourd'hui, c'est aux jeunes qu'on s'intéresse. Comment se portent-ils? C'est la question centrale de l'émission. Plus de la moitié vivent anxiété ou dépression, disent les études. Est-ce que c'est bien la réalité sur le terrain? Pour répondre à cette question-là, je reçois le docteur Sébastien Bergeron de la Direction de la Santé publique de la Montérégie, Patrick Lamotte, directeur de l'école secondaire Bernard Garrier, puis Corinne Lavallée de l'Association générale des étudiants et étudiantes du cégep de Sorel-Tracy. Lisette Trépanier, présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu. Quatre directrices et directeurs de maisons de jeunes, Lucie Champagne, David McDermott, Anne-Laurie Nolin et Alain Guimont. La directrice de Justice Alternative, Pierre de Sorel, et présidente de la Maison d'ancrage, Nicole Teasdale. La directrice générale de la Fondation du cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin. Et le directeur général du Carrefour Jeunesse-Emploi de Pierre de Sorel, Mario Fortin. La tribune, immédiatement après la pause.
La Fédération de l'UPA de la Montérégie, en collaboration avec plusieurs partenaires, invite les producteurs agricoles de la MRC à la journée d'information « La poutre au beurre en action ». L'événement se déroulera le vendredi 10 mars prochain dès 9h au Centre communautaire de Saint-Robert. À l'horaire, un bilan de la mobilisation des producteurs dans le bassin versant de la rivière Poutre au beurre et plusieurs conférences en lien avec les pratiques durables à la ferme. Des prix de présence se seront tirés parmi les producteurs présents. Pour plus d'informations et inscriptions, contactez Julie Lacombe, 450-774-9154, poste 6224.
Chez Meubles André Beaulieu jusqu'au 22 février, profitez de notre promotion sur les ensembles de cuisine Whirlpool et Maytag. Achetez deux électroménagers de cuisine admissibles et économisez 200 $ additionnels. Chez Meubles André Beaulieu, on vous aide à passer à travers le mois de février à coup de promotion. Lors de votre prochain achat d'un matelas Mirabel, nous incluons les taxes et nous vous offrons un couvre-matelas gratuit. Venez rencontrer nos spécialistes qui sauront vous guider. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Alors, on s'intéresse ce midi à La Tribune à la jeunesse dont on devrait s'inquiéter si l'on en croit les études. Certaines nous indiquent qu'un jeune sur deux vit anxiété ou dépression. Est-ce que c'est bien la réalité, ça, sur le terrain? J'en parle d'abord au docteur Sébastien Bergeron, qui est pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence. Il est médecin conseil en santé publique. Bonjour, docteur Bergeron.
Bonjour, M. Rochon, ça va bien?
Ça va bien. Les jeunes, eux, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'on doit croire les statistiques que je viens d'énoncer? On n'a pas très envie d'y croire.
Ben, je suis d'accord avec vous. On n'a pas envie d'y croire, mais en effet, ce qu'on remarque sur le terrain, comme dans les statistiques, c'est que il y a plusieurs jeunes qui sont restés fragilisés par la pandémie. Faut dire qu'il y a à peu près 50% des jeunes âgés de 12 à 25 ans qui ont rapporté des symptômes importants qui suggéraient de l'anxiété généralisée ou une dépression, là, d'après nos statistiques. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est important de mentionner que déjà avant la pandémie, la santé mentale des jeunes en arrachait, et ce, partout dans la province. C'est sûr qu'avec la pandémie, en modifiant leur routine, leurs activités, leur socialisation, leur façon d'apprendre, la pandémie a fait en sorte que ça a amplifié la situation puis fragilisé un grand nombre d'adolescents. Puis c'est en effet ce qu'on observe dans le bureau du médecin. On a une explosion de consultations pour de l'anxiété, des dépressions, les troubles alimentaires comme l'anorexie, les dépendances aux substances, aux écrans. Et c'est ce qui ressort aussi dans les statistiques de la population.
OK. Est-ce qu'il y a des situations, docteur Bergeron, des situations, des postures, des comportements anxiogènes répandus qui peuvent expliquer une bonne partie de l'anxiété vécue par les jeunes?
C'est sûr que la santé mentale des jeunes est déterminée par différents facteurs, hein, notamment leurs habitudes de vie, les croyances et leur environnement. Quand on parle des habitudes de vie qui peuvent rendre un jeune plus anxieux, ben on parle par exemple d'un jeune qui est sédentaire, un jeune qui a une alimentation désordonnée, c'est-à-dire qui sort des repas par exemple ou qui s'alimente mal. Des jeunes qui vont passer beaucoup de temps sur leurs écrans, qui vont avoir des problèmes de sommeil ou qui vont pas avoir les outils en tant que tels pour gérer le stress. C'est principalement ces facteurs-là, ces comportements-là qu'on va voir. Mais faut comprendre aussi que les comportements des jeunes, des adolescents, ça relève pas juste de l'individu ou de l'adolescent même. L'environnement autour de lui, que ce soit l'environnement familial, les règles sont à la maison, l'environnement scolaire, par exemple, c'est de l'intimidation, les ressources qui sont disponibles, les difficultés académiques et tout ça. La communauté en tant que telle a beaucoup à faire aussi là, pour s'assurer là, d'optimiser au mieux là, la santé mentale de nos adolescents.
Bon, vous venez de parler là, des effets de la surutilisation des écrans chez les adolescents. Vous y associez l'apparition de symptômes dépressifs et anxieux dans certains cas. Au Canada, je lisais que 42 % des enfants de moins de 9 ans, 55 % des jeunes de 10 à 13 ans et 77 % des ados de plus de 14 ans possèdent leur propre cellulaire avec une connexion Internet. Est-ce qu'on manque de sagesse? C'est nous, les parents, qui leur payons ça. Est-ce qu'on fait bien?
C'est une question très, très contestable. Disons, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les écrans de nos jours, hein, puis de plus en plus, les jeunes sont exposés précocement aux écrans, alors qu'en réalité, plus qu'on les utilise jeunes et plus longtemps on va les utiliser, bien, plus qu'il va y avoir des risques sur la santé ou le développement de nos enfants. Par exemple, chez les jeunes enfants, on va principalement avoir des problèmes au niveau du développement, principalement du développement du langage. Plus tard, on va voir apparaître chez les enfants un peu plus vieux et les adolescents un peu plus de problématiques du genre insomnie, difficulté à se concentrer, difficulté académique. Il peut y avoir aussi des problèmes avec, on peut avoir mal un peu partout, selon c'est quoi l'écran qu'on utilise. Il y en a qui vont développer des symptômes anxieux et dépressifs, justement, en lien avec l'utilisation des écrans. Pas juste à cause du temps passé sur les écrans, mais aussi à cause des activités qu'ils vont avoir sur les écrans, le contenu qu'ils vont consulter, qui peut fragiliser aussi l'estime de soi, qui peut l'image de soi. Les exposer à différents contenus qu'on souhaiterait éviter, du moins à l'adolescence.
Je comprends. Il nous reste à peu près une minute là, notre conversation. Qu'est-ce que vous nous conseillez, nous, les parents, là, à part l'utilisation saine des écrans, pour améliorer tant notre santé mentale que celle de nos enfants?
Ben, je pense qu'en tant que parents, c'est important d'être sensible au fait que nos jeunes, ils en ont vécu énormément dans les dernières années. Je pense qu'il faut qu'on soit ouvert, qu'on ouvre la discussion avec eux, s'assurer que régulièrement avec eux, qu'ils vont bien, leur demander comment ça se passe la journée, prendre des repas avec eux, c'est une occasion très importante là, de passer du temps en famille, rester disponible pour voir si eux ressentent le besoin de se confier. Et je pense que c'est important aussi de reconnaître les signes qui peuvent nécessiter qu'on a besoin de l'aide extérieure. L'aide qui peut venir de tel jeune, de la ligne parent, du CLSC ou du professionnel de la santé ou du médecin du jeune. Principalement si on voit que côté anxiété, déprime, idées noires, idées suicidaires, ça commence à apparaître, ben je pense que c'est important à ce moment-là, en tant que parent, d'amener notre jeune à consulter.
Docteur Bergeron, je dois vous remercier, c'était très intéressant. Merci encore.
Ça fait un plaisir. Merci beaucoup.
Merci. Nous retrouvons maintenant à l'école secondaire Bernard Gariépy, qu'il dirige, Patrick Lamotte. Bonjour, Patrick.
Bonjour, M. Frégin. Ça va bien?
Ça va bien. Tu as auparavant dirigé l'école Martel, sur laquelle il était, à une époque, pas rare de voir le monde lever le nez, qui a fini par devenir, comment je dirais ça, quasiment une référence en termes de milieu fou de ses enfants, je vole l'expression à Camille Bouchard. Vas-tu réussir le même tour de force avec BG? Est-ce qu'on va voir aussi les projecteurs se diriger vers ce qui s'y passe de beau?
Mais on souhaite, hein? On souhaite ardemment parce qu'on fait vraiment des belles choses. Je t'ai partagé récemment notre dernière édition là, de la Gazette de BG. Là. On a des activités régulièrement. Puis au-delà des activités aussi, la vie à l'intérieur des membres de l'école, c'est sûr que évidemment, quand il se passe des événements plus négatifs, des choses qui attirent l'attention médiatique, c'est souvent des situations un peu plus isolées. Fait que c'est difficile de faire rayonner le beau, mais je suis content aujourd'hui qu'on puisse s'en parler. On espère. C'est ça le plan d'être fier de l'école de notre région et d'être fier de nos écoles secondaires. J'ai été moi-même étudiant à Bernard-Garifi. Fait que c'est sûr que dans mon cas, c'est une école que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. On essaie de transmettre cette fierté-là aux employés, mais aussi...
On partage ça. J'ai été aussi un ex de BG. Je suis un ex de BG. Bon, alors, je l'ai parcouru, la Gazette, là, que tu m'as fait parvenir, qui passe l'année en revue. J'ai été impressionné. Le Salon des métiers, retour de la radio étudiante, 50e anniversaire, troupe de théâtre, troupe de danse, sport. Il y en a de l'offre à Bernard-Garifi.
Oui, beaucoup. Puis les techniciens, mais l'ensemble des membres du personnel, ils travaillent fort parce qu'on le sait, là, mathématiques, français, anglais, là, toutes les matières de base, il y a ça dans toutes les écoles secondaires qui fait la vie. Dans une école, c'est aussi ce qu'on peut y vivre. Puis la situation actuelle là, au niveau du décrochage de nos élèves, ce qui garde nos élèves accrochés, c'est souvent le reste. Donc, la vie scolaire, parascolaire, ce qui se passe entre les murs de l'école, ça fait toute la différence, là, c'est sûr.
Bon, tout n'est pas rose pour autant, là, puis je sais que tu ne portes pas de lunettes roses. Au Québec, l'anxiété, la dépression touchent un jeune sur deux. On vient d'en parler avec le docteur Bergeron. La sens-tu, la détresse, toi, chez les jeunes que tu côtoies?
Non, oui, absolument. Actuellement, on a des... Ça, on parlait des contre-coups au niveau du post-COVID, là. Bien, c'est sûr qu'on vit des situations problématiques au niveau des enfants, des jeunes qui ont de la difficulté à socialiser, à être en contact avec les autres, à communiquer efficacement. Tu sais, tous les enjeux qui sont là ont été accentués par justement cette situation-là d'isolement que les jeunes ont connu, l'école à distance, les mesures sanitaires, beaucoup de pression psychologique chez les jeunes. Nous, on découvre un programme hyper intéressant là, à l'intérieur de nos murs qui s'appelle le programme Hors-Piste. Un programme qui a été mis sur pied là dans les dernières années qui permet justement d'avoir un travail de sensibilisation mais de prévention au niveau des jeunes pour le stress et l'anxiété. Puis le volet exploration, le volet expédition aussi avec les élèves, on fait des sous-groupes de besoins pour ceux qui sont vraiment, vraiment là, on va dire affectés, plus grandement affectés par rapport à la situation du stress et de l'anxiété, ça devient dysfonctionnel. Des jeunes qui sont à peu près plus capables de fréquenter le milieu scolaire, qui vivent des enjeux au niveau du stress, l'anxiété fréquente. Là. On déploie ces programmes-là pour les garder à l'école puis les garder motivés malgré tout ce qu'ils vivent.
Vous interdisez les cellulaires à Bernard-Garifi. C'est pas parce qu'ils sont pas permis. C'est pas parce qu'ils sont permis qu'il est arrivé ce qui est arrivé il y a quelques jours. Ils sont pas autorisés. Mais tu as entendu mes statistiques tantôt. Hein, au Canada, 42 % des enfants de moins de 9 ans, 55 % des jeunes de 10 à 13 ans, 77 % des ados de plus de 14 ans possèdent leur propre cellulaire avec une connexion Internet. Vous avez besoin de la collaboration des parents pour que ces cellulaires-là restent à la maison?
Ah, absolument. Puis, tu sais, il faut pas avoir aussi des... Comme on disait tantôt, tu l'as bien nommé, Sylvain, avoir des lunettes roses, là, il y a une différence entre avoir en sa possession puis avoir à l'école. L'élève qui rentre à l'école, qui met son téléphone cellulaire dans son casier, qu'il reprend en fin de journée, c'est une chose. L'élève qui est en sa possession, ça veut dire dans ses poches de chandail, manteau, pantalon ou dans ses mains. Et on est beaucoup plus dans la notion de en sa possession, puis c'est là-dessus qu'on essaie de sensibiliser les parents. De un, ne pas texter leurs enfants, ne pas appeler leurs enfants pendant les périodes de cours, parce que ça arrive aussi malheureusement régulièrement quand les enfants ils ont des communications avec leur téléphone cellulaire, ça peut être aussi des gens de la famille. Et on leur dit, il y en a d'autres moyens. On est une école et on est capable de rejoindre, les enfants sont capables de rejoindre leurs parents en quittant. Donc, d'avoir le téléphone cellulaire dans le casier parce que l'enfant, il fait une demi-heure, 45 minutes de transport le matin, qui veut se changer les idées, ou en fin de journée dans l'autobus, on ne peut pas combattre une seule école contre un enjeu sociétal. Puis de téléphone, jamais. Puis je voudrais pas avoir annoncé ça au chauffeur d'autobus qu'il n'y a plus de téléphone
okay.
dans l'autobus actuellement. Là.
Patrick, il faut que je te remercie. Merci beaucoup, Patrick Lamotte.
Ben merci beaucoup, Sylvain.
Merci.
Bonne journée, bye-bye.
Toi aussi. On passe de la polyvalente au cégep. On retrouve Corinne Lavallée de l'Association générale des étudiantes et étudiants du cégep de Sorel-Tracy. Bonjour, Corinne.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien, vous?
Bon, oui. Et la santé psychologique de tes camarades d'étudiants et étudiantes du cégep, qu'en dirais-tu? Ont-ils le moral?
Je pense que le moral revient assez bien depuis que le confinement est terminé et qu'on a pris les cours... en présentiel, aussi, on essaye de ramener la vie étudiante avec l'asso, avec des activités, des parties, puis on voit vraiment que l'implication des étudiants revient peu à peu.
OK, alors la pandémie, ça a vraiment été la passe dure à traverser, là. Et ça peut avoir laissé des blessures qui ne sont pas encore tout à fait guéries.
Oui, selon moi, et selon ce que j'ai observé au cégep, surtout au niveau académique, donc le fait d'avoir terminé son secondaire dans la pandémie avec des cours en ligne, ça crée beaucoup d'insécurité quand les gens sont rentrés au cégep et qui ont été fait face à des objectifs académiques beaucoup plus élevés. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté à s'adapter au cégep à cause de ça, qui ont plus de difficultés dans leurs cours, notamment en littérature. Donc, on l'observe beaucoup. On voit aussi que les gens ont plus tendance à s'isoler qu'avant. Donc, il y a moins de gens qui vont aller à la cafétéria pendant leur pause. Ils vont plus retourner chez eux régulièrement pendant leur temps libre.
Il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants du cégep qui mènent de front études et travail. La conciliation travail-études est-elle généralement heureuse ou problématique? Qu'est-ce que tu observes?
Je pense qu'il y a certaines personnes qui commencent à vraiment prendre moins de cours par session pour pouvoir plus travailler. Donc, ils vont faire un cégep en 3 ans au lieu de 2 ans, par exemple, au lieu de travailler. Puis ça leur permet réellement de conserver des bonnes notes et de pouvoir avoir certains revenus en même temps. Je pense que plus ça va, plus les étudiants adoptent des modes différents. Il y a un peu alternatif pour convertir vers des études collégiales. C'est pas nécessairement mauvais. Je pense que c'est juste des techniques différentes pour passer à travers son cégep.
On a beaucoup parlé d'anxiété chez les jeunes depuis le début de l'émission, dans l'étude à laquelle tu m'as peut-être entendu référer, où on lit qu'anxiété ou dépression touche un jeune sur deux. On apprend aussi que la crise climatique est anxiogène pour les jeunes. Elle l'est d'ailleurs davantage pour les jeunes Québécois que pour les jeunes des autres provinces. Les jeunes Québécois sont les moins optimistes au Canada en termes d'environnement. Est-ce que c'est une donnée qui t'étonne?
Personnellement, ça ne m'étonne pas réellement parce que depuis qu'on est tout jeune, depuis notre entrée à l'école primaire, on nous répète qu'il faut faire attention à l'environnement. On entend partout que le réchauffement climatique est dangereux. Puis là, on voit aucun changement réellement. Donc, on est comme une génération qui est rendue habituée un peu à vivre dans cette incertitude climatique-là. Puis je crois qu'on s'y est juste un peu fait à force d'en entendre parler avec les amis. Donc, ça ne m'étonne pas réellement d'entendre qu'on est peu optimiste.
Merci beaucoup, Corinne Lavallée, de m'avoir accordé cet entretien. Merci, Corinne.
Merci.
On se tourne maintenant vers Lisette Trépanier, qui est présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu. Bonjour, Mme Trépanier.
Bonjour.
Alors, quel écho avez-vous de vos membres à l'égard de la santé psychologique des jeunes? Les enquêtes qui disent qu'un sur deux souffre d'anxiété ou de dépression, est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? Quel écho vous avez du terrain? Avez-vous un écho du terrain à ce propos-là?
Bien, ce dont les enseignants au secondaire me parlent beaucoup, c'est leur inquiétude face aux jeunes qui travaillent énormément. Certains font presque des 30 heures semaine. Les enseignants me disent que des fois, ils arrivent à l'école le lundi plus fatigués que le vendredi quand ils sont partis pour la fin de semaine. Ça inquiète beaucoup. Il y a aussi des enfants qui vont dire, ben j'ai pas le choix, ça aide beaucoup ma mère parce que j'ai plus besoin d'y demander de l'argent, fait que ça l'aide. Ils sentent une responsabilité dans certains milieux aussi pour donner un coup de main parce qu'on sait que l'inflation, c'est difficile pour tout le monde. Fait que ça inquiète beaucoup les enseignants. Puis aussi le danger, tu sais, quand t'es un jeune à la maison, ton argent de poche, t'as pas de responsabilité, tu fais ce que tu veux. Fait que tu peux avoir l'impression que c'est beaucoup, mais on le sait que les gens qui vont pas faire d'études, qui vont travailler toute leur vie au salaire minimum, c'est des vies qui sont difficiles. Ils vont travailler tout le temps énormément d'heures pour venir à bout d'arriver. Je suis pas sûre qu'un jeune il est nécessairement là, conscient de tout ça. Fait qu'est-ce que ce phénomène-là va faire en sorte que certains ne termineront pas leurs études? C'est assez inquiétant.
OK. Alors, les jeunes commencent de plus en plus tôt à travailler et travaillent de plus d'heures qu'ils ne travaillaient jusqu'ici. C'est la pénurie de la main-d'œuvre, j'imagine, qui est notamment une explication, alors.
Bien, c'est ça, le besoin est grand. Puis, tu sais, moi, mes jeunes ont commencé à travailler assez tôt, mais c'était seulement la fin de semaine, c'était seulement quelques heures. Mais là, il y en a qui font beaucoup d'heures parce que certains employeurs sont mal pris. Fait qu'ils vont offrir beaucoup d'heures, mais au détriment des études, souvent.
Oui, et si les jeunes, vous n'avez pas d'écho à l'effet qu'ils soient anxieux, vous en avez sûrement à l'effet qu'ils soient fatigués.
Oui, c'est ça. Bien, anxieux, sûrement aussi, ça vient ensemble. Si à un moment donné, tu veux réussir tes études puis tu fais trop d'heures, tu sais, quelqu'un qui a des ambitions scolaires quand même, bien, ça peut le rendre anxieux à un moment donné s'il n'y a plus assez d'énergie pour faire les deux.
La télé nous montre en boucle des bagarres, nous partage des histoires sordides. Je me suis tourné une seconde là vers les écrans qu'on a dans la salle des nouvelles pendant que je vous parlais. Et qu'est-ce que j'y vois? Une bagarre dans une école de La Salle. Il n'y a pas un risque de faire passer l'anecdote pour la norme, pour le quotidien, jusqu'à en faire oublier qu'il se passe de belles affaires aussi dans nos écoles?
Oui, vous avez raison. Je pense que des batailles, il y en a toujours eu. Je pense que les réseaux sociaux mettent ça, malheureusement, plus en lumière. Mais il y a des belles histoires, il y a des enfants, tu sais, qui sont super fins. Il ne faut pas penser que tout le monde passe ses loisirs à se battre les uns contre les autres, ce serait pas vrai.
Ouais. Puis il y a beaucoup de gérants d'estrade. Les profs devraient faire telle affaire, les surveillants devraient agir de telle façon, les directions d'école de telle manière. On en met beaucoup sur le dos des écoles. Alors qu'il faut, j'ai envie de reprendre de ce magnifique proverbe africain, tout un village pour élever un enfant.
Oui, oui, je pense que c'est un peu un problème de société. Quand on voit une direction ou un enseignant appeler à la maison, au primaire, parce que c'est surtout au primaire qu'on va me rapporter des gestes de violence envers les enseignants, pour expliquer, mais votre enfant, il a posé tel geste, puis que le parent répond, ben mon Dieu, il a dû le provoquer. On a un problème de société, là, parce que répondre par la violence, peu importe, c'est jamais une excuse. Fait qu'il faut arrêter de vouloir dire que les enfants n'ont rien fait, qu'ils sont jeunes, puis il y a une éducation à faire. Puis s'il y a une éducation à faire pour la violence aussi, mais il faut le faire. Puis quand vous parlez d'anxiété, si on parle de jeunes au primaire qui ont des gestes de violence, est-ce que ça peut être de l'anxiété qu'un enfant trop jeune pour le dire en mots va le dire en gestes malheureux? Tu sais, faut creuser ça.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, Lisette Trépanier. Merci, Mme Trépanier.
Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour. Après la pause, quatre directrices et directeurs de Maison de Jeunes, Lucie Champagne, David McDermott, Anne-Laurie Nolin et Alain Guimont.
Afin de mieux planifier votre prochaine randonnée en motoneige et pour profiter des meilleures conditions, nous vous invitons à écouter la chronique sur les conditions de sentier de motoneige, diffusée à tous les jeudis, 7h40. Vous obtiendrez un résumé complet concernant les conditions des sentiers et l'organisation des différentes activités. Les conditions de sentier de motoneige, une présentation de Performance NC et du bar 525.
Je suis travailleur saisonnier. Et je travaille toute l'année. Comment c'est possible? J'occupe différents emplois selon les saisons. Entre mes périodes d'emploi, je peux même avoir accès à de l'aide financière pour des formations de courte durée. Un de mes employeurs m'a aussi dit qu'il y avait eu de l'aide pour prolonger ma période d'emploi. Travailleur ou employeur, visitez québec.ca/emploi saisonnier. Un message du gouvernement du Québec.
Chez Meubles André Beaulieu, jusqu'au 22 février, profitez de notre promotion sur les ensembles de cuisine Whirlpool et Maytag. Achetez deux électroménagers de cuisine admissibles et économisez 200 $ additionnels. Chez Meubles André Beaulieu, on vous aide à passer à travers le mois de février à coups de promotion. Lors de votre prochain achat d'un matelas Mirabel, nous incluons les taxes et nous vous offrons un couvre-matelas gratuit. Venez rencontrer nos spécialistes qui sauront vous guider. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On s'intéresse à la santé psychologique des jeunes ce midi à La Tribune. Comment se porte-t-il? Des études nous disent qu'un sur deux vit anxiété ou dépression. Est-ce que c'est la réalité, ça? Au cours de ce segment de l'émission, je vous propose des entretiens avec quatre directrices et directeurs de maisons de jeunes du territoire. À commencer par Lucie Champagne, qu'on rejoint à la maison de jeunes de Sorel. Bonjour, Lucie.
Bonjour.
Lucie, je vais profiter du fait que du groupe, tu sois celle qui a le plus d'expérience pour te demander de nous accompagner dans un voyage dans le temps. Depuis combien d'années œuvres-tu au fait à la Maison de jeunes de Sorel?
35.
35 ans. Alors, le voici, mon voyage dans le temps. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plus anxieux et déprimés que ceux d'hier, ceux que tu as côtoyés à tes débuts, là?
Écoute, je te dirais que ce qui est différent, c'est que les jeunes aujourd'hui qui fréquentent sont plus jeunes que il y a 30 ans. Donc, je pense, je vois que oui, effectivement, je les sens beaucoup plus anxieux et préoccupés par des sujets qu'il y a plusieurs années, ils se préoccupaient pas.
OK. Genre?
Genre, tu sais, la sexualité, l'hypersexualisation, l'intimidation. Tu sais, l'intimidation, là, ça a tellement l'air d'être généralisé, là, entre les jeunes. Tu sais, il n'y a pas une journée qu'on n'entend pas parler d'intimidation. Toute la question aussi LGBT aujourd'hui, qui n'était pas nécessairement vraiment à la mode il y a longtemps, le questionnement sur son orientation sexuelle dès 12 ans, là. Tu sais, je voyais pas ça avant. Premièrement, là, je te dirais que il y a 35 ans, des jeunes de 12 ans, il n'y en avait pas dans les maisons de jeunes.
C'est ça, c'était des plus vieux adolescents. Là.
C'était 16-17 ans.
Exemple. OK. Combien de jeunes fréquentent la maison de jeunes sur une base régulière, maison de jeunes de Sorel?
Je te dirais qu'à date, là, dans notre année financière, on a 514 jeunes différents qui ont fréquenté depuis le 1er avril dernier.
C'est quand même pas mal.
Oui, c'est quand même pas mal.
Puis vous avez toutes sortes de projets rattachés à la maison. Vous avez, pendant un bon 25 ans, encadré le travail de rue. Est-ce que vous le faites toujours?
Oui, on le fait toujours, oui. On a des projets de prévention toxicomanie. Oui, c'est comme la toxicomanie, les problèmes de consommation, là, c'est très, très, très différent d'il y a longtemps. Là. C'est plus les mêmes substances. Ils commencent beaucoup plus jeunes avec la mode des vapoteuses. C'est quelque chose à gérer. Oui.
Est-ce que vous ne prêtez pas aussi vos services autour, je pense à Massuville notamment, ça se peut-tu?
Oui, mon Dieu, c'est gentil d'en parler. Bien oui, on a un projet qui d'intervention auprès des jeunes en milieu rural. Présentement, on est présent à Saint-Roch, Massuville, Saint-Ours un peu. C'est ça, on essaye de donner des services aux jeunes qui sont en milieu rural parce qu'on pense que ces jeunes-là sont plus... peut-être plus isolé.
OK. Hey, en 30 secondes, Lucie, avant de te quitter, comment on peut, comme parents ou grands-parents, aider les jeunes?
En les écoutant, en les forçant, si tu veux, à parler de ce qu'ils ressentent. Puis je te dirais que c'est en les écoutant, puis en ne pas les jugeant, à ne pas les juger parce que...
Accueil et bienveillance, dirait Nicole Teasdale, à laquelle je vais parler plus tard.
C'est ça,
hein? Hey, merci beaucoup, Lucie Champagne. Merci.
Bye-bye.
Merci. On rejoint le collègue de Lucie du côté de Tracy, David McDermott. Bonjour, David.
Bonjour, c'est Rachon.
Il me semble, il était question de relocalisation à un moment donné de la maison de jeunes de Tracy. Est-ce que c'est toujours dans l'air, ça?
Oui, effectivement. On attend que les travaux soient complétés pour pouvoir... bouger vers le centre culturel.
Centre culturel, OK. Combien de jeunes fréquentent la maison Chemin Saint-Roch à Tracy?
On a environ 200 membres actifs à la maison.
Bon, alors abordons, David, la question du jour, puisqu'on a peu de temps. Comment se portent les jeunes? Quel bulletin de santé tu dresserais des jeunes que tu côtoies, que tu animes?
Bien, ma collègue Lucie a été quand même assez précise sur le portrait qu'on voit. Effectivement, moi aussi, de mon côté, je vois des jeunes beaucoup plus jeunes fréquenter la maison des jeunes avec des problématiques qu'on voyait pas il y a quelques années chez ces jeunes aussi jeunes-là. Donc, je ne vais pas répéter ce que Lucie a dit, mais je constate les mêmes problématiques.
Alors, à quoi tu attribues ce mal-être-là qui frappe une partie de la jeunesse?
Je pense que c'est une multitude de facteurs. Surtout que le retour de la pandémie, ça n'a pas aidé, le fait d'être confiné tout ce temps-là, le fait de réapprendre à vivre ensemble. Il y a beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a certains jeunes qui comprennent pas la gravité des gestes posés sur les réseaux sociaux. Encore là, c'est pas la majorité, c'est quelques gens. Il y a pas les gens qui comprennent les enjeux. Beaucoup de jeunes qui travaillent plus jeunes, comme Lucie a dit aussi, on voyait pas ça il y a quelques années. Il y a des jeunes de 12-13 ans travaillés. Aujourd'hui, on les voit, donc plus de pression probablement. Donc,
Quel est le remède contre l'anxiété? Comment vous la soignez, l'anxiété? Comment vous aidez les jeunes dans la maison de jeunes de Tracy qui ont le moral dans les talons?
On est là pour les écouter, pour essayer de les conseiller du mieux qu'on peut. aussi pour les occuper. Donc, peut-être que des projets, un jeune qui ne voit pas son anxiété différemment que s'il ne va trop s'enligner. Donc, avec les projets qu'on propose aux jeunes, sont capables d'évacuer leur anxiété en partie là-dedans.
Le docteur Bergeron nous parlait tantôt au début là, des effets pervers de la surutilisation des écrans. Ta clientèle, est-ce qu'elle a beaucoup les yeux rivés sur son téléphone intelligent?
Oui, effectivement. On essaie, là, quand ils sont ici, de les éloigner un peu de ça pour remplacer par d'autres activités. Donc, oui, effectivement, c'est un réflexe facile de se mettre là-dessus.
Alors, c'est problématique, là, cette vie virtuelle-là.
Pas juste chez les jeunes, je dirais, chez les adultes aussi. Mais oui, effectivement, c'est... C'est un problème qui n'était pas présent il y a quelques années.
Merci beaucoup, David. Merci.
Merci.
Anne-Laurie Nolin travaille, elle, à la maison de jeunes de Sainte-Anne-de-Sorel. On l'y rejoint. Bonjour, Anne-Laurie.
Bonjour.
Toi, tu as l'air de bonne humeur. Les jeunes Saint-Annoises qui sont comme toi, de bonne humeur, ils se portent comment?
Honnêtement, ils se portent assez bien récemment. Justement, la dernière fois qu'on est allé les voir à l'école de Sainte-Anne, ils étaient super ouverts à venir à notre maison des jeunes. Et ils sont toujours très, très heureux de venir à la maison des jeunes.
Mais l'anxiété dont les études font état chez les jeunes, ça vous parle? Vous côtoyez ça aussi quand même?
Oui, absolument. Ayant moi-même... Été à leur âge et ayant vécu moi-même des symptômes de l'anxiété. Je peux parler pour les jeunes aujourd'hui en mentionnant que, oui, les jeunes vivent un peu plus d'anxiété depuis la pandémie.
Est-ce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui fréquentent la maison?
Quand même, on a à peu près 8 jeunes par activité et même des fois plus, là.
Et vous y proposez quoi comme activité?
Soit des activités d'intérieur, donc on va organiser des soirées de jeux de société, des soirées aussi jeux vidéo et un type d'activité, en fait. Et à l'extérieur, on va par exemple aller au ice out ou dans des glissades d'eau l'été, à la ronde, etc.
OK. Est-ce que c'est difficile de les faire décrocher de leur téléphone intelligent?
Oui, quand même. Par exemple, là, présentement, on essaie d'organiser des petits parties une fois par mois à la Maison des jeunes et on voit vraiment un abus de cellulaire, même dans les parties, là. Les jeunes ont tous un cellulaire et prennent des photos pendant la soirée et s'amusent à aller sur TikTok, l'application. Et ouais, c'est assez complexe là, de les faire débarquer.
C'est quoi les intérêts des jeunes en 2023?
Je dirais les jeux vidéo énormément. Ça a pris énormément d'ampleur avec les nouvelles consoles et les nouveaux ajouts des jeux. Justement, les écrans. Très peu de sport d'extérieur. Donc, ouais. Donc.
Ils sont pas mal encabanés devant l'écran, le grand ou le petit du cellulaire.
Oui, mais j'ai vu quand même une amélioration récemment, là, justement en allant proposer nos services à l'école de Saint-Anne. On a vu vraiment comme des jeunes beaucoup plus intéressés à sortir de leur zone de confort.
D'accord. Est-ce qu'ils ont des rêves, des ambitions, les jeunes? Est-ce qu'ils parlent de ça à la maison entre eux?
Je pourrais pas vous dire parce que nous... J'ai jamais entendu un jeune parler d'un rêve avec moi. Malheureusement.
Anne-Laurie, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Alain Guimond dirige la maison de jeunes de Contrecoeur. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Il y a longtemps que vous êtes en poste à Contrecoeur?
Oui, ça va faire. À la direction, ça va faire comme 5 ans. Puis sinon, je suis là depuis 2013.
Il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent la maison de jeunes à Contrecoeur?
Oui, quand même. On a des bonnes fréquentations, puis ça va toujours en augmentant avec la population qui augmente, là.
Oui, on parle de quelle tranche d'âge? Laquelle est surtout représentée?
Les maisons des jeunes, c'est 12 à 17 ans. Nous, présentement, c'est beaucoup des 12 à 14 ans qui fréquentent la maison des jeunes, en grande majorité.
D'accord. Vous confirmez ou vous infirmez, Alain Guimond, ce que les études disent, à savoir que plus d'un jeune sur deux vit anxiété ou dépression. Est-ce que vous observez ça, vous, sur le terrain?
Je pourrais pas confirmer parce que j'ai pas les études, mais nous, oui, d'observation, il y a beaucoup de jeunes qui vivent de l'anxiété ou de la dépression.
Comment on peut les aider, les jeunes qui sont anxieux ou qui sont dépressifs? Votre approche à vous, quelle est-elle?
Nous, la Maison des jeunes à Contrecœur, on est beaucoup dans une approche de loisir qui fait que le jeune va développer un lien de confiance avec les animateurs, puis à partir de là, va peut-être vouloir se confier un peu. Puis nous, on a un intervenant, un travailleur de milieu qui va pouvoir aider ou référer si les problèmes du jeune sont plus importants que ce que nos capacités à les gérer.
À quoi elle est liée, cette anxiété? Est-ce qu'elle a ce que j'appellerais un tronc commun ou elle est liée à une diversité de raisons?
De ce qu'on observe, c'est quand même assez diversifié parce que l'anxiété, on en vit tous. Ça va venir d'un paquet de facteurs. Là. Des fois, ça peut être des raisons familiales, ça peut être des raisons personnelles. Je pourrais pas dire qu'il y a un tronc commun. Mais encore là, je suis pas non plus un spécialiste de l'anxiété.
Des jeunes qui mesurent l'appréciation qu'on leur porte au nombre de j'aime sous leurs publications sur Facebook, TikTok, Instagram, ça existe ça ou c'est anecdotique?
J'ai déjà entendu des spécialistes en parler comme de quoi que ça pouvait avoir un effet pervers. Les j'aime, la quête de j'aime sur les réseaux sociaux. Moi, je ne l'ai pas vécu à la Maison des jeunes, dans le sens que j'ai pas eu de témoignages qu'on m'a dit que comme de quoi que c'était anxiogène pour eux. Là. Mais encore là, je pense que c'est quelque chose qui est quand même très personnel. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on va afficher à tout le monde. De prime abord.
Je comprends. Le virtuel, est-ce que ça occupe une grande place dans leur vie, supplantant presque le réel?
Je ne sais pas jusqu'à où ça supplante le réel, mais une énorme place. Ça, pour le constater, là, quand on observe les jeunes, les réseaux sociaux prennent énormément de place. De plus en plus, c'est très envahissant dans nos vies. Mais à travers tout ça, ben, c'est d'apprendre à vivre avec ça, à faire la part des choses. Je pense que ça va être ça les prochains défis. Là.
Merci beaucoup, Alain Guimond, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Merci. Après la pause, Nicole Teasdale, Myriam Arpin et Mario Fortin.
Vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi? Vous avez envie de réorienter votre carrière? Vous êtes en quête de nouvelles opportunités? Pour être un meilleur candidat et obtenir des conseils éclairés pour votre prochaine entrevue, prenez rendez-vous avec Laurier Berger de Laurientech tous les jeudis 8h15 dans Yahtzee Matin. On va en profiter pour vous parler de nos activités à venir, de nos services et peut-être même y trouverez-vous votre emploi de rêve. Les capsules de Laurientech tous les jeudis 8h15 à CJSO 107 et au CJSO.ca.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Comment se portent les jeunes pour clore cette émission? Nicole Teasdale, Myriam Arpin et Mario Fortin. Nicole Teasdale, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Vous dirigez Justice Alternative Jeunesse et êtes présidente fondatrice de la Maison L'Ancrage, Pierre de Sorel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Il y a 37 ans, peut-être un peu plus même, que vous dirigez Justice Alternative Jeunesse, c'est dire que vous avez côtoyé des générations de jeunes. Est-ce que le portrait de ces jeunes-là a beaucoup évolué depuis quatre décennies?
Je vous dirais que oui, Sylvain. Quand j'ai commencé en 1985, je vous dirais que les jeunes avec lesquels nous travaillons étaient principalement des garçons et ils avaient commis principalement des infractions contre la propriété. Or, avec les années, le profil a changé, c'est-à-dire que maintenant, on a de plus en plus de jeunes filles qui viennent dans nos services et aussi le type d'infraction commise, alors qu'avant, la majeure était les crimes contre la propriété, ce qu'on appelle ou les infractions, maintenant, c'est inversé, ce sont les infractions contre la personne.
Il en aurait peut-être pu expliquer au départ que c'est ça, on vous réfère des jeunes qui ont commis des actes criminels, hein?
Oui, c'est en plein ça. Alors, lorsque les jeunes viennent à justice alternative, ils ont soit, donc, ils ont commis une infraction, se sont fait arrêter, et pour certains, ils sont dans ce qu'on appelle un programme de déjudiciarisation, les sanctions, où certains ont comparu devant le tribunal, et là, ils sont dans un cadre judiciaire. Lorsqu'ils viennent à justice alternative, c'est le moment pour eux d'assumer les responsabilités de leurs gestes et de réparer les torts qu'ils ont causés.
D'accord. Vous êtes par ailleurs la présidente fondatrice de la Maison de l'ancrage Pierre de Sorel, qui héberge les 16-23 ans vulnérables. La maison en a accueilli beaucoup de ces jeunes depuis son ouverture?
Oui, en fait, il faut rappeler que l'ouverture s'est faite en janvier 2021. Alors, on a près de 23 et 25 jeunes qui ont été hébergés. Certains jeunes demeurent plus longtemps que d'autres, dépendamment de leur réalité. Donc, c'est le portrait actuel.
C'est un lieu, et là je reprends vos mots, accueillant, vos deux adjectifs, accueillant et bienveillant. Accueil et bienveillance, c'est de cela dont nos jeunes ont besoin.
Oui, tout à fait, parce que il faut comprendre qu'un jeune, lorsqu'il se présente pour la maison de l'ancrage, c'est pas de gaieté de cœur, hein, qu'il va cogner à la porte pour dire, moi, je suis en situation où je ne sais pas où je vais dormir, ou je veux surtout pas retourner à tel endroit pour dormir ou passer mes journées. Donc, ils ont besoin d'être accueillis, justement, sans jugement, pour avoir l'occasion de trouver un endroit. Vous savez, la maison est un endroit sécuritaire aussi et accueillant et bienveillant, tout en étant accompagné par des intervenants pour justement aider à la réintégration du jeune dans la communauté.
Est-ce qu'elles vous étonnent, ces statistiques dont je fais état là, depuis le début de l'émission, sur l'anxiété et la dépression, un jeune sur deux là, qui vivrait ça, ça vous étonne ça?
Je ne sais pas si ça m'étonne, mais ça me préoccupe, chose certaine. En même temps, je pense que les jeunes vivent la même réalité que les adultes. Hein? Parfois, l'anxiété des adultes dans l'entourage va se transmettre aux jeunes aussi. Donc, mais c'est préoccupant. Il faut y voir. Justement, la chance que l'on a, c'est qu'il y a plusieurs ressources dans la région. Et je sais que parfois, je me répète mais en disant, lorsqu'on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à prendre le téléphone, à en parler à quelqu'un de confiance qui pourra nous amener vers une ressource. Nous, à Justice, ça arrive que les jeunes, au-delà du fait qu'ils ont contrevenu à la loi, au-delà du fait qu'ils sont en train de réparer, s'ouvrent sur leur réalité et il n'est pas rare qu'on va les référer vers les ressources, justement, qui vont pouvoir les accompagner, les soutenir dans ce qu'ils vivent.
Qu'est-ce qu'est là d'anxiogène, l'époque dans laquelle on vit, pour les jeunes?
Oh mon Dieu! Je pense qu'il y a sur le plan financier, nous, on entend souvent des jeunes qui, malgré qu'on parle de la pénurie de main-d'œuvre, il y a des gens qui perdent leur emploi et qui n'en retrouvent pas dans l'immédiateté. Donc, des préoccupations financières. Il y a aussi des relations conflictuelles avec les parents, les relations amoureuses. J'entendais ma collègue Lucie Champagne parler d'orientation sexuelle aussi, d'identité sexuelle. Et les jeunes sont, comme les adultes aussi, très rébarbatifs à la différence, le jugement. Et on ne peut pas ne pas parler des réseaux sociaux qui font que ce qui était un conflit à l'époque, qui se passait dans un endroit, maintenant se passe 24 heures par jour en quelque part.
Et un conflit privé devient parfois un conflit public.
Ou elle confie public et là, les gens se permettent de commenter. Moi, j'ai un principe. Si quelqu'un ne nous demande pas notre avis, on devrait attendre avant de se prononcer. Malheureusement, souvent, on le voit, il y a des envolées qui se font et ça n'aide pas nécessairement le règlement des situations. Mais je pense que c'est un amalgame de toutes ces situations-là. Quand les jeunes entendent parler de guerre aussi, sans qu'ils le verbalisent, ben ça a un effet quand on ouvre la télé, qu'on entend les nouvelles.
Ouais,
les nouvelles, ils passent pas à côté de ça. Parfois, les jeunes ne parlent pas, mais ils écoutent. C'est comme un peu ils épongent, hein? Ils prennent les émotions que l'on vit. Alors, et ils ont parfois de la difficulté à nommer les choses.
Il me faut vous remercier déjà, Nicole Teasdale. Merci, Nicole.
Merci à vous, Sylvain.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Myriam Arpin est directrice générale de la Fondation du cégep de Sorel-Tracy. Bonjour, Myriam.
Bonjour.
Vous êtes, Myriam, au cégep et à la Fondation du cégep, bien conscient que des jeunes qui fréquentent le collège vivent de la détresse psychologique. Vous avez fait ce diagnostic-là.
Bien, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai des collègues merveilleux pour ça. C'est le service d'aide psychosociale. Il y a des besoins au cégep, mais nous, la Fondation, n'établit pas de diagnostic. Je ne peux pas parler pour le cégep de toute façon, Corée-de-la-Vallée. Vous a témoigné un peu là, de l'association étudiante, comment ça se vivait de l'intérieur au cégep. Mais nous, la Fondation, on est là pour financer des projets, pour aller chercher des donateurs, pour collaborer à la réussite éducative des jeunes du cégep. Et ce que ça veut dire, collaborer à la réussite éducative, c'est de permettre des projets pour le bien-être des étudiants, entre autres.
Parfait. Pendant ma question, peut-être que vous pouvez passer du mode main libre à l'autre mode. Si vous êtes en mode main libre, on vous entend de loin. Vous lanciez au cégep en décembre, aux côtés du Centre de crise et de prévention du suicide de la traversée, de l'application ALI. Cet outil-là utilise, si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle pour contribuer à la réussite et au soutien psychosocial des étudiants. Maintenant que je l'ai dit, comment ça marche, ça?
Ben c'est une application, c'est super simple. On va le dire comme ça en langage de jeunes, on chatte avec le robot conversationnel et je veux mentionner que ça ne remplace pas l'intervention humaine. Là, c'est un plus, un levier supplémentaire pour rejoindre les jeunes. Les jeunes, on le dit depuis le début, le téléphone cellulaire est très très présent et quand il nous arrive des problèmes, des fois, ça nous arrive même aux adultes de pas avoir envie de prendre le téléphone ou de pas avoir envie d'en parler. Donc, quand tu es tout seul à la maison ou au cégep ou n'importe où et que tu veux parler rapidement à quelqu'un sans jugement, je te dis pas là que les gens au cégep jugent là, ce qui arrive, mais tu comprends dans la tête de quelqu'un, des fois ça peut être difficile, ben là, tu écris quelque chose et le robot te répond. Admettons, j'écrirais « j'ai besoin d'aide », le robot va dire « ben t'as besoin d'aide pour quoi ?» Donc, pourquoi, mettons, exemple, je veux me suicider, tout de suite, est-ce que tu veux que quelqu'un t'appelle? Est-ce que tu peux rejoindre la traversée? Et soit dit en passant, la traversée est venue à l'aide de la Fondation, à notre appel à l'aide, la traversée Centre de crise et de prévention du suicide, pour financer, collaborer au financement.
D'accord, c'est votre partenaire dans cette aventure-là.
Exactement, okay. C'est notre partenaire financier. Donc, c'est aussi simple que ça et ça dirige en fait les jeunes vers les bonnes ressources au cégep et des fois, ça peut juste comme les rassurer. Est-ce que tu vis du stress, de l'anxiété? Est-ce que tu as de la difficulté au niveau de tes finances, tes relations interpersonnelles? Ce qui fait que les ressources cégep sont disponibles, mais ne sont pas nécessairement disponibles 24 heures sur 24.
Ben vous nous avez aidé à voir clair sur Ali, Myriam. Je dois vous remercier parce que je dois passer immédiatement à Mario Fortin. Merci, Myriam.
Merci.
Bye-bye. On se rend, oui, pour clore cette émission au Carrefour Jeunesse Emploi où nous attend son directeur général, Mario Fortin. Bonjour, Mario.
Bonjour, Sylvain. J'avais hâte que ce soit mon tour.
Oui, bien là, c'est ça. Puis il va être court, votre tour. On va faire ça vite. Je me souviens comme si c'était hier de ton arrivée à la direction du Carrefour. Elle ne date pourtant pas d'hier.
Ça va faire 12 ans au mois de mars.
Bon, 12 ans. Tu m'as entendu référer abondamment aux enquêtes traitant de l'anxiété chez les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est accentué? Là? Ça fait 12 ans que tu les observes, les jeunes. Est-ce que c'est plus criant que ce l'était?
Bien, moi, je pense que oui. Les statistiques le prouvent. Par contre, puis je trouve ça intéressant, le sujet de l'émission ce midi. Puis on réfléchit beaucoup sur les jeunes, tout le monde, puis nous autres, c'est dans notre ADN parce qu'on est une organisation jeunesse. Mais on fait peu de parallèles avec la société en général. Puis dans vos intervenants qui ont passé par avant. Si on parlait de cellulaire ou de tablette ou peu importe, mais quand on est en société, on voit que les parents ne donnent pas nécessairement l'exemple. ce que je trouve, c'est que on en demande beaucoup aux jeunes, puis on donne pas l'exemple. Alors après ça, on se surprend de l'état dans lequel ils sont. Mais ceci dit, Sylvain, je trouve que tout n'est pas négatif quand même, parce que l'avantage qu'ils ont, nos jeunes, contrairement parfois à leurs parents ou leurs grands-parents, c'est qu'ils sont capables d'humilité, de venir consulter et de travailler avec des professionnels. Et vous demandiez à une intervenante si les jeunes ont des rêves et des ambitions, bien c'est sûr que oui. Plusieurs se voient occuper des métiers intéressants, faire de l'art, des sports. Alors, moi, je pense que tout n'est pas négatif, puis il faut peut-être un peu plus penser au positif.
Oui, alors les jeunes se rendent au carrefour justement hein, pour trouver leur voie, retour aux études, arriver sur le marché du travail.
Oui, absolument. Parfois, c'est des problèmes de persévérance scolaire. Des fois, c'est comment aller en emploi, comment le conserver, quelle attitude il faut avoir. C'est peut-être pas tout le temps montré à la maison. Alors nous, ça nous fait un plaisir, c'est notre devoir de le faire.
Que peut-on, chacune et chacun, faire en terminant, Mario, c'est une question à 100 000 piastres, là. Que peut-on faire pour rendre plus heureuse l'existence des jeunes?
Comme adulte, il faut être heureux, nous autres aussi, puis donner l'exemple.
Ah, c'est comme pour le téléphone, hein?
Je pense que, Tim, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, les jeunes, ils apprennent de ce qu'ils voient.
Excellente observation. Merci beaucoup, Mario Fortin.
Merci, au revoir.
Merci, Mario. Merci à l'ensemble de mes invités. Alors, la semaine prochaine, chers amis, la semaine prochaine à la Tribune, on regarde ce qu'on peut faire pendant la semaine de relâche. C'est un pas pire menu. Bonne semaine, tout le monde.